Vous écoutez France Culture.
Divers aspects de la pensée contemporaine. Aujourd'hui, l'Union rationaliste, une émission proposée par Emmanuel Huysmans-Perrin. Dounia Bouzard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue du fait religieux. Vous dirigez le cabinet Cultes et Cultures. Vous êtes spécialiste auprès des collectivités territoriales, des entreprises, mais également aussi auprès des partis politiques, de la gestion de la diversité religieuse au quotidien. Et si nous vous avons invité aujourd'hui à l'antenne de l'Union rationaliste, c'est que va paraître dans les tout débuts du mois de décembre un guide pratique de la laïcité pour les élus de la République. Ce guide a été rédigé sous la direction de Jean Glavany, député socialiste des Hautes-Pyrénées, et a pour objectif d'aider les élus locaux confrontés à des difficultés concrètes, sensibles et quotidiennes dans la gestion des collectivités locales. Il se base sur un travail de terrain que vous avez mené dans plusieurs villes, Dounia Bouzard, et notamment avec les élus et les équipes techniques. Alors je dis les noms des diverses villes où vous avez travaillé, des villes de Brest, Grenoble, Nantes, Lyon, Paris, Lille et Strasbourg, qui a un statut particulier en raison du Concordat. Vous n'êtes pas à votre premier guide sur la laïcité, puisque vous aviez fait paraître en octobre 2010 « Laïcité, mode d'emploi ». Mais ce guide-là est particulier par rapport à ce guide de 2010 et puis aux autres dont vous allez nous parler. Donc racontez-nous, s'il vous plaît, l'aventure de cet ouvrage-ci, qui, sans doute, comme le dit Jean Glavany, aventure qui ne fait que commencer.
Oui, alors j'ai rejoint l'aventure collective du guide pour les élus dirigé par Jean Glavany pour le travail de terrain, puisque c'est un livre collectif où des militants, le comité d'études laïques a aussi travaillé. Moi, mon aventure commence il y a quelques années par un état des lieux, puisque notre cabinet Culte et Culture a fait le premier état des lieux sur, plutôt que la gestion des revendications religieuses, on va appeler ça la gestion des revendications de liberté de conscience, puisque justement, la liberté de conscience, rappelons-le, comprend la liberté de croire, la liberté de ne pas croire et la liberté de croire en ce que je veux. Donc ça, c'est plus grand que la liberté de croire. Hein. On est plus dans la laïcité vue comme un régime juridique, une loi justement qui est au-dessus des libertés de conscience et une loi de 1905 qui rend possible les différentes libertés de conscience et qui permet l'égalité des droits au-delà des différences. Donc liberté de conscience plutôt que liberté de religion. Un état des lieux qui avait abouti à... Alors, très très rapidement, parce que c'est juste pour l'introduction, on s'était rendu compte qu'au fond, on a fait plus de 800 interviews dans 4 bassins d'emploi. Ça a été publié par Albin Michel. Hein. Ça a donné lieu à 2 livres différents. Un en entreprise, à la a-t-il sa place en entreprise, et un pour les usagers des services publics, la République ou la Burqa. Et à chaque fois, notre question concernait les critères de gestion des revendications de liberté de conscience. Et très rapidement, on s'est rendu compte que les élus, les managers, les directeurs institutionnels avaient très peu de connaissances des critères légaux de la laïcité et finalement étaient seuls avec leur propre subjectivité personnelle, leur propre affectivité, leur propre relation à la religion qu'ils transféraient sur les gens qu'ils avaient à gérer et qu'au fond, la subjectivité personnelle du chef faisait loi. Et quand la personnalité du chef fait loi, on arrive à 2 extrêmes, surtout concernant l'islam, parce qu'il faut rajouter que nos questions étaient très ouvertes, mais que sur 800 interviews, 799 nous ont donné des exemples sur l'islam.
Ah oui.
Et avec un sentiment Où justement les gens oscillaient entre deux grandes angoisses, la peur finalement d'être raciste et islamophobe,
oui,
d'un côté, et l'autre extrême, la peur de ne pas être laïque en nommant les choses. Donc des angoisses un peu contradictoires allant de l'une à l'autre. Et cet ensemble de choses, la non-connaissance des critères légaux, la peur de nommer les choses, la délicatesse de nommer les choses, surtout sur la question musulmane, produisait deux dysfonctionnements différents. Le premier dysfonctionnement que l'on connaît très bien, qui frôle le traitement discriminatoire, c'est-à-dire qu'on présume à l'avance de caractéristiques négatives pour telle ou telle personne parce qu'il est présumé de telle religion,
oui, confession,
ou de telle origine, voilà. Et puis, à quelque chose de plus surprenant, l'autre extrême aussi, un certain laxisme, c'est-à-dire que finalement, dans certains services, on ne demande pas autant aux salariés de référence musulmane qu'aux autres salariés, parce qu'il y a cette présomption d'altérité, il y a nous et eux, et du coup, discrimination ou laxisme, voilà ce qu'on a trouvé sur les terrains. Ça peut être y compris dans la même entreprise, d'un étage à l'autre. Et alors, si je dois finir rapidement cet état des lieux, on trouve aussi un rapport de force, en l'absence de critères légaux, dans le même service, qu'il s'agisse d'un service public ou d'un service privé. C'est-à-dire que s'il y a une majorité de musulmans pratiquants, ils peuvent empêcher quelqu'un de prendre un café pendant le ramadan à plus de 100 mètres d'eux, donc faire la loi à l'envers de la laïcité. Et l'étage au-dessus, le pauvre garçon qui fait humblement son ramadan sans embêter personne, peut être à son tour harcelé par une majorité de collègues qui ne supportent pas les religions et qui veulent absolument qu'il devienne libéré et qu'il arrête de croire en toutes ces choses archaïques et qui vont aller jusqu'au harcèlement à force de colibés vraiment pesants. Donc, un rapport de force, toujours en l'absence de critères légaux.
Alors vous, Dounia Bouzard, vous répondez à ces différentes pressions sur le terrain par des rappels de la loi et par un traitement bien empirique de différents cas. Dans l'ouvrage qui nous occupe, ce guide pratique de la laïcité pour les élus de la République et qui va paraître début décembre, 6 chapitres ont été retenus. La gestion des lieux de culte, la gestion des associations, la gestion des demandes de non-mixité, piscine ou gymnase pour différents motifs, le financement des établissements d'enseignement privés, la restauration scolaire et les cimetières. Alors la question que je voudrais vous poser, Dounia Bouzard, c'est quels sont dans ces chapitres les cas qui vous ont donné le plus de difficultés et quels sont les résultats de ce travail dont vous êtes à la fois la plus satisfaite et la plus contente, quoi. Chaque cas, je le précise, étant illustré de solutions juridiques et d'expériences novatrices à travers ce que vous appelez des fiches de bonnes pratiques.
Il y a des situations qui m'ont émue personnellement parce qu'il s'agit de rencontres humaines quand on va sur les terrains. J'ai rencontré une technicienne de cimetière extraordinaire qui m'a expliqué qu'à force de travailler la question du besoin de recueillement des francs-maçons à Lyon, qui ont fait le premier crématorium, mais qui, malgré leur choix de crémation, avaient un fort besoin de recueillement, elle a travaillé des années là-dessus. Est-ce que c'était un recueillement faisant pousser une rose? Est-ce que c'était des cendres versées dans les jardins? Est-ce que c'était dans des pierres, enfin c'est tout un travail d'une profondeur extraordinaire. Et un matin, elle s'est réveillée en disant « Et les musulmans ? Comment ils se recueillent ?» Et alors elle me raconte ça avec une profondeur et du coup, elle rencontre le président du conseil régional musulman et lui fait tout un travail pour adapter l'islam à la loi de 1905 et elle fait tout un travail pour justement tenir compte de l'islam dans l'application de la loi 1905. Donc ça, ce sont des belles histoires que j'ai racontées mais qui ne tiennent pas dans le guide, qui seront d'ailleurs des fiches publiées par les journaux ou qu'on mettra sur les sites parce que le guide est forcément quelque chose de très pratique. Là où je vais insister, c'est que, avec par exemple les équipes politiques de la ville de Grenoble et de Brest, j'ai fait un travail qui a duré un an. Mmh. Donc un travail profond. Et la grande satisfaction, puisque c'est votre question, c'est surtout le fait d'avoir trouvé il nous semble en tout cas, une philosophie propre à l'esprit des Lumières et de la diversité française, qu'on a nommé le PPDC, c'est-à-dire le plus petit dénominateur commun. C'est-à-dire qu'on a cherché un système qui soit neutre quand il y a une diversité de conscience, c'est-à-dire qui permette à aucune vision du monde de s'imposer aux autres. On a cherché un système qui n'entraîne pas de traitement spécifique pour une partie de la population, ce qui irait à l'encontre du citoyen universel. On a cherché un système qui applique la loi à tous les citoyens de la même façon, ce qu'on ne trouve pas du tout sur les terrains. Hein. Bien souvent, quand il s'agit de l'islam, certains élus conservateurs n'appliquent pas la loi comme il faudrait, contrairement à ce qu'ils disent. Il n'est absolument pas nécessaire de changer la loi de 1905.
Mais de l'appliquer.
Il faudrait commencer par l'appliquer, y compris aux musulmans. Et après, on pourrait discuter si vraiment il y a des interrogations. Mais il faudrait déjà que les élus l'appliquent comme ils l'appliquent aux bouddhistes et aux autres. Ça serait déjà pas mal et c'est ce que les musulmans demandent en premier lieu. Ensuite, on a cherché un système où on adapte une norme à une communauté particulière, mais on a réfléchi à ce que la norme universelle incorpore tous les citoyens, c'est-à-dire incorpore les nouvelles références. Alors je vais vous donner un exemple typique parce que là comme ça a l'air un peu abstrait. Quand vous regardez la gestion des cantines des collèges actuellement au travers de la France, on a des cantines qui ont enlevé la viande de porc, en se disant on enlève le porc, comme ça, ça calmera les musulmans qui veulent de la viande halal. On a des cantines où on a 30% d'enfants qui se sont désinscrits de la cantine parce qu'on les obligeait à manger de la viande. Enfants écolos, enfants végétariens et enfants musulmans. Donc un gros problème social. Parce qu'ils ne mangent plus avec leurs camarades, ce qui fait quand même la transpiration humaine, le lien de manger ensemble. On a des cantines qui ont botté en touche et qui, sous prétexte de circulaires de vaches folles, ont enlevé toute viande, mais sans parler les choses, sans nommer les choses. On a ceux qui ont mis de la viande halal. Alors là, ça fait une segmentation entre les enfants. Vous avez les tables de musulmans, les autres. Touche pas à mes tomates, elles sont halal, va manger ton cochon. Le petit Kader qui adore la charcuterie corse depuis qu'il a 5 ans, il a une pression du groupe des musulmans. Mais comment tu manges avec les autres? Tu es devenu un traître. Et puis vous avez les cantines qui font rien et qui continuent à laisser ces musulmans qui veulent manger halal sans nourriture. Bon. Et alors, le PPDC, on a trouvé une ville qui l'avait appliquée, c'est la ville de Lyon qui apparaît dans le guide comme vraiment précurseur. Ce sont les associations laïques, notamment les Libres Penseurs, menées par un chargé de mission de la LICRA, Patrick Kahn, qui a mené tout ça et qui a associé les personnalités religieuses et qui ont essayé de se mettre d'accord en se disant trouve une solution complètement laïque, de façon à ce que nos enfants mangent complètement ensemble, à la même table, les mêmes repas, sans jamais plus parler religion. Et ils sont arrivés au compromis de laisser un repas classique et de ajouter en deuxième choix du poisson et des œufs, tout simplement, ce qui permet aux musulmans pratiquants de manger sans parler religion, ce qui permet à Jean-Pierre, s'il veut manger du poisson le vendredi, de s'inscrire en repas poisson s'il en a envie le vendredi sans parler religion, ce qui permet à chacun en fait de faire des choix différents, d'évoluer dans leur choix, de manger ensemble. Et ils ont enlevé, alors là vraiment j'ai trouvé ça extraordinaire, le fameux porc et sans porc, dont personne ne dit rien, mais qui continue à catégoriser les enfants dès qu'ils arrivent dans une école. On leur dit c'est avec porc ou sans porc, ce qui veut dire que les enfants qui lèvent la main pour le sans porc sont présumés musulmans et juifs. Et ils l'ont enlevé, ça. Parce que justement, le jour où il y a du porc, eh ben on peut s'inscrire de l'autre côté. Et tout ça sans que ça rajoute un centime ni à la ville, ni aux familles. C'est le type d'exemple. Alors, j'ai juste une dernière phrase sur cet exemple. Il est pour moi vraiment le summum de ce fameux PPDC parce que ceux qui n'ont rien demandé tirent un bénéfice de l'agrandissement de la norme. C'est-à-dire ceux pour qui le repas classique de viande classique convenait très bien sont contents d'avoir en plus, en bénéfice, le choix du poisson et des œufs. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on peut travailler la diversité des convictions que si ceux qui sont heureux actuellement tire un bénéfice à avoir quelque chose de supplémentaire. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose de très transversal.
En même temps, ce que je comprends de votre travail, Dounia Bouzin, c'est qu'il est en effet très pratique et très ancré dans le respect de la laïcité telle que la loi de 1905 la proclame. Et en même temps que vous essayez, dans la diversité concrète de tous les cas qui se présentent à vous, de trouver la solution à la fois la plus rassembleuse, la plus universelle, et celle qui ajoute quelque chose.
C'est-à-dire qu'on revient à la loi de 1905 et on se rappelle que 1905 est avant tout un système juridique qui garantit à tous les Français leur liberté de conscience du moment qu'elle ne marche pas sur celle de l'autre.
Hein,
et qu'il ne s'agit pas d'une idéologie. Imposer l'athéisme serait pas laïque, comme imposer une religion... C'est facile à dire, ma liberté de croire s'arrête ou commence ta liberté de ne pas croire et vice-versa. C'est très facile à dire. Sur le terrain, c'est beaucoup moins facile. Là, j'ai commencé par des exemples qui montrent déjà que ça demande un long cheminement d'arriver à faire que personne n'impose sa propre référence aux autres et que ça ne provoque pas de segmentation entre les uns et les autres.
Précisément parce qu'il y a sur le terrain des rapports de force et des instrumentalisations.
Absolument, et que la liberté individuelle de chacun doit être préservée. Le concept du PPDC, ça m'est venu d'un architecte qui travaillait sur les personnes handicapées et qui m'a dit, dans les entreprises au départ, on nous demandait de faire des grandes portes pour les handicapés et les portes normales pour les gens normaux. Et puis les files d'attente, c'était pareil. Et maintenant, on ne travaille plus comme ça. On fait des portes assez grandes
pour que
tout le monde passe ensemble, entrer. Fauteuil roulant ou pas. Et c'est un peu l'esprit qui nous anime.
C'est sur ces derniers mots, Dounia Bouzin, que nous allons clore cette émission. Je vous remercie.
Merci à vous.
J'ai le plaisir d'annoncer la dernière parution de l'Union Rationaliste, donc le dernier cahier rationaliste, le numéro 613, contient deux articles, un de Marc Péchanski et Cécile Martina sur les cellules souches embryonnaires et les idéologies réactionnaires, et puis un de Pascal Lédraire sur la thèse de Duhem sur la sous-détermination. Et je signale aussi qu'est paru le dernier numéro de Raison Présente, coordonné par Christian Ruby, qui s'intitule « Art et sciences, réalisation et projet d'interférence ». Très beau numéro, très riche et divers. Je remercie Claire Levasseur et Brigitte Mazir qui ont rendu possible cette émission et je vous dis au mois prochain.